Bleu, RCFM. France Bleu.
Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Nous allons parler de cinéma ce soir avec Jean-Charles Marcy.
Bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir à tout le monde.
Merci d'être là. Il y a Alicia qui réalise cette émission. Et je le disais, ce soir nous allons parler de cinéma, d'un film qui a été écrit, réalisé, produit en Corse, que nous pourrons découvrir ce soir au cinéma Le Régent à Bastia, 19h30, en partenariat avec le festival Artemar et le cinéma Le Régent, mais aussi le 15 mars avec le cinéma L'Ellipse à Ajaccio, le 6 avril à Cargèse. Ai-je dit que c'était un film qui était également coproduit par France 3 Corse via Stella et
c'est fait.
La maison de production Omnicube, très important, on en parlera également avec Pierre Gambigne. Ce film sera diffusé sur la chaîne donc France 3 Corse via Stella le 16 mars et normalement, si tout va bien, nous pourrons le voir à Propriano au théâtre le 25 mars. On reçoit sa réalisatrice. Bonsoir, qui est là?
Bonsoir Marie.
Vous êtes?
Vous êtes?
Alors je suis Lavinie Bouffi.
Lavinie Bouffi, soyez la bienvenue dans ce studio sur RCFM pour nous présenter La vie ou la pluie, votre premier long métrage. C'est émouvant cette histoire-là, non? Premier long métrage que tout le monde va voir ces quelques jours, puisque une tournée comme les rockstars est organisée pour la diffusion du film. Vous vous sentez comment?
Écoutez, contente, j'ai hâte de le partager,
ouais.
J'ai hâte que tout le monde le voit, j'ai hâte que tous les comédiens, que tous les techniciens, ceux qui ont participé à le faire, puissent enfin voir le résultat de leur travail, parce qu'on a gardé tout secret, personne n'a rien
personne
vu.
Ne l'a vu, ah, c'est intéressant.
Parmi les comédiens, très très peu.
D'accord, d'accord.
Pourquoi? Donc, pourquoi ce choix de le garder secret?
Oh, mais parce que c'est bien qu'il puisse le voir en grand écran et pas sur mon ordinateur.
On a été privilégiés alors, mon mari.
Ah d'accord. Non, justement, nous on l'a vu sur un petit écran, sur ordinateur,
oui, on l'a vu, au
avec
moins.
Un son moyen.
On ira le voir au théâtre ce soir.
Et on l'a véritablement adoré.
Merci.
Oh non, mais on le dit pas par flagornerie. Voilà. Et Jean-Charles comme moi.
Un peu quand même.
Jean-Charles.
Non, franchement, moi, sincèrement, alors, j'ai pas pour habitude d'être un flagorneur.
On dit la vérité ou pas?
On dit la vérité.
Je le vois, je l'aime tellement. J'ai dit à Jean-Charles.
Moi, j'ai dit à la fin.
Voudriez-vous le voir parce que je l'ai beaucoup aimé pour avoir votre avis? Et là, vous me dites.
C'est du cinéma.
C'est pas mal.
Bon, ça n'engage que moi. Après, les gens peuvent dire, bon, Marcy, qu'est-ce qu'il comprend au cinéma? En tout cas, moi, j'ai eu de belles émotions. J'ai adoré pas mal de choses. On va en parler. Énormément de choses, et non pas pas mal. C'est vraiment du cinéma. La Corse, ça parle à beaucoup de gens, enfin, mais c'est universel aussi, c'est plein
de choses. L'image est très belle, la lumière également, la musique
le montage, tout,
de Pierre Gambigne est très chouette et fonctionne très bien. Les acteurs sont formidables, ils sont extrêmement bien dirigés, c'est très juste, on est très ému tout le temps, et on a l'impression que ça parle de nous, que c'est notre histoire, parce qu'en réalité...
On peut s'y retrouver,
ouais. Ouais, c'est un film choral sur un siècle, l'histoire de choix de femmes, mais pas seulement, car non. Il y a un homme aussi qui est le pivot de ce film et qui est votre papa, parce que c'est l'histoire de votre famille.
Exactement.
Mais ça pourrait être l'histoire de la famille de Jean-Charles ou la mienne ou celle de Pierre.
En partie, oui, un peu de tout le monde.
D'Alicia, hein. De tout le monde.
Exactement, mais c'est un petit peu le but en fait, le vrai but de ce film, en plus de faire un film et de parler de fiction, c'était de non pas de raconter l'histoire de ma famille, qui est sans intérêt particulier, mais c'était que chacun puisse faire en fait comme un miroir inversé le point sur les siens, sur ceux qu'ils ont aimés, sur son enfance, sur le fait de grandir en Corse, qu'est-ce que ça implique, comment ça se passe.
C'est fictionnel ou autobiographique ou un petit peu des deux?
Alors, tout est vrai. Mais
d'accord.
Tout est faux, puisque c'est vu selon un seul point de vue,
le
mien.
Ah oui, dans le sens où c'est le vôtre, d'accord, oui.
Voilà, ça reste le mien. Peut-être que ces femmes-là, comme ma grand-mère...
N'auraient pas perçu l'événement comme vous.
Voilà, peut-être qu'elles n'auraient pas raconté les choses de la même manière, ou que d'autres de la famille ne les voient pas de la même manière non plus.
Enfin, c'est une histoire bien compliquée aussi, hein, c'est pas toujours rose. Hein.
Même si vous réservez évidemment la primeur aux spectateurs qui viendront au cinéma ce soir, au Régent à Bastia à 19h30, mais également à l'Ellipse à Ajaccio, ce sera le 15 mars prochain, le 6 avril à Cargèse, et ou encore le 25 mars au Théâtre de Propriano, et n'oublions pas, sur France 3 Corse VST, là, le 16 mars, on s'est permis de prendre quelques petits bouts, mais vraiment
oui, léger, hein.
Tout petits, parce que je sais que Pierre Gambigne n'aime pas ça.
C'est le producteur,
mais,
entre autres.
Hein. Mais même pas peur. Même pas peur. Juste
même s'il est de loupine, à la base, on s'en fout.
Juste le début. Ah, j'ai un petit peu plus peur, du coup.
Non.
Vous
non.
savez, comme ça,
c'est pas juste. J'ai pas le droit de parler, normalement.
Mais il est là. La question, c'était comment l'introduire. Bonsoir, Pierre Gambin.
Bonsoir. Bonsoir à vous, non, n'ayez pas peur, il n'y a que des gens bien à Loupine.
J'ai dû vous forcer, hein. Vous ne vouliez pas venir, c'est incroyable.
C'est un plaisir, c'est un plaisir.
Allez, c'est un plaisir de vous accueillir, puisque vous nous parlerez justement de la production de ce film. C'est une première, un long métrage de fiction en Corse, avec des acteurs corses, des techniciens corses, et une réalisatrice, et une scénariste corse. C'est quand même un événement.
Ça fait beaucoup de Corse, effectivement.
On avait envie de le saluer. Le tout début de ce film.
Seul au monde, mais est-ce véritablement vrai? Nous sommes toujours l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'un pays, l'enfant d'une famille, l'enfant d'une histoire plus grande que nous, et nous devons reprendre le flambeau et faire de cet héritage un futur. Mais aucun futur n'est envisageable tant qu'on n'a pas regardé dans le passé. Et moi, je regarde du côté des femmes de ma famille.
Alors, on comprend bien que lorsqu'on débarque sur cette terre, eh bien, même si on débarque nu comme un ver, on a de grosses valises, qui sont les valises familiales, notre propre histoire, le siècle dans lequel on évolue, mais aussi notre environnement. Donc ici, la Corse, évidemment pour vous. Et puis, ces femmes très fortes, blessées par la vie, que vous tentez d'ailleurs de penser grâce à ce film, comme vous d'ailleurs, hein. Ça sert à ça, les œuvres de création. Et puis, il y a votre père. Il y a votre père qui est magiquement interprété par Pascal Tagnat, oui. Qui a dû avoir une charge difficile. Vous nous raconterez comment ça s'est passé.
Oui. Alors Pascal Tagnat, j'avais très envie que ce soit lui qui puisse l'interpréter, parce que c'est un bon acteur et qu'il a surtout un physique comme ça, un petit peu années 70, comme ça, et beaucoup d'intensité, d'intériorité. C'est un acteur qui est capable de faire passer beaucoup d'émotions avec très peu de dialogue.
Avec qui vous avez déjà travaillé en 2006, ça vous doit
dire, il y a
pas mal d'années.
Exactement, j'avais dirigé dans une petite pièce de théâtre à Fautzane que j'avais écrite. Et donc je voulais absolument que ce soit lui. Et Pascal est aussi réalisateur, et j'avais très peur qu'il refuse, et j'étais très honorée de sa présence, et en effet, il a très très bien interprété ce personnage donc d'Étienne, qui est un berger, enfin un musicien qui change un
Étienne,
peu.
Étienne, c'est plutôt un gars dans le vent, qui est musicien, qui joue de la guitare.
Qui est citadin aussi, ouais.
Oui, c'est ça.
Un jour, il va vouloir changer, peut-être, on va pas tout expliquer, mais bon.
Qui a envie de changer de vie.
Qui a envie de changer de vie, qui a envie de faire un retour à la Terre. C'est un petit peu l'époque, on va dire les années 70, ça va. Mais quand même, ça va lui coûter quand même sa famille. Ça va lui coûter aussi une forme un petit peu de rejet social, finalement, dans cette Corse qui promouvait un petit peu le retour à la terre. Finalement, ça n'a pas tellement suivi dans les années suivantes, et j'ai trouvé qu'on lui a souvent reproché. Voilà. Et en fait, tout le thème du film, c'est un petit peu la vraie thématique, au-delà que ce soit les femmes et des vies de femmes blessées, c'est le rejet social. Quelque chose qu'on peut retrouver comme ça un petit peu chez nous, qui est un petit peu dur parfois.
Même vers la fin, c'est bien présent. Enfin, on va pas tout expliquer.
Et la fille d'Étienne, donc, pour ce changement de vie, bah, alors qu'elle devient adolescente, elle a un peu honte. Elle a un peu honte de dire que son papa est berger.
Comme tous les ados ont honte des parents à un moment donné aussi.
Cette petite fille, elle a honte de tout, c'est ça. Elle arrive dans les années 90. Donc ça se passe à Ajaccio pour le coup, mais c'est pareil, hein, qu'on soit à Courges, Ajaccio, bah ça c'est à peu près pareil, et à l'école et tout ça, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile, elle a honte de tout, elle ment, elle cache. Bon, après, beaucoup d'adolescents ont dû demander à leurs parents de les laisser plus loin.
Pardonnez-moi, elle a honte du choix du papa qui souhaite être, berger. Non. C'est ce choix-là dont elle a honte, ou c'est simplement de la figure paternelle? Quand on est ado, on a tous un petit peu honte de nos parents. Laissez-moi là avant le cinéma, tu vas pas me laisser devant avec la voiture, comment on fait tout
ça? C'est pas ça, c'est vraiment une honte induite par le regard des autres. Un regard des
d'accord.
Omniprésent, qui est très dur.
Qui juge aussi.
Qui juge en permanence, mais qui juge finalement tout le monde. On s'en rendra bien compte, parce que finalement, tout le monde est jugé, même ceux qui ont plus d'attrait que d'autres. Parce que lorsqu'on est dans un univers où on juge tout le monde, on est jugé soi-même. Donc ça
c'est aussi un peu le procès de la société, de la proximité dans laquelle on évolue tous, où on s'épie les uns les autres, on se jalouse. Certains se jalousent, etc.
On va écouter un morceau juste pour vous rendre hommage à votre famille, rendre hommage à tous les Corses et à votre papa.
Alors il y avait le papa, Étienne Bouffier,
ouais, oui.
Il y avait également ce jour-là Claude Acquavive, Pierrot Cuil et Jean-Félix Paoli. Ils avaient enregistré cette escale en Corse, c'était au Pavillon Bleu.
C'était au Pavillon Bleu, voilà, c'est ça que je cherchais. Et c'était évidemment des moments qui étaient absolument délicieux.
Tout à fait, ils sont revenus quasiment tous, là, ceux qu'on a cités, pour le film, faire une séquence du film.
17h20, la séquence que vous attendez ardemment, Lavinie Bouffier.
Toc toc, l'invité mystère.
Bonsoir invité mystère.
Bonsoir.
Invité mystère, merci d'avoir été si patient, puisque je suis un peu à la bourre.
On s'en va.
Sur mon chrono, et je vous remercie.
Ah oui, 17h20. Oui.
Nous allons vous poser des questions, et surtout Lavinie Bouffier, qui est notre invitée, réalisatrice du film que nous avons beaucoup aimé, La vie ou la pluie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Invité Mystère, ce film. Mais en tout cas, nous allons... Vous l'avez vu ?
Oui.
Ah, l'invité mystère a vu le film.
Mon Dieu, quel indice. Normalement, il n'y avait que très, très peu.
Il y a peu de gens qui l'ont vu. Ouais.
Et je vous assure, ça n'est pas Jean-Charles Marcille.
Non, c'est moi.
Oh my God.
Posez une question.
Pour dire bonsoir. Alors, bonsoir. Est-ce que vous êtes, une femme ?
Oui.
Eh oui. Est-ce que vous êtes une très jeune femme ?
Non.
Bon, c'est vrai que c'est une question. Je pensais à Camille, en fait, dans le film. À la petite Camille qui joue Lavinie Petit.
Petite.
Donc.
Pas non plus âgée, hein, l'invité mystère.
Qui a vu le film ?
Oui, ça n'est pas une vieille dame, hein ?
Ah non, pas du tout,
non,
pas du
non,
tout.
Non, mais il y a tellement peu de monde qui l'a vu que normalement ça devrait être simple pour moi, mais je sais plus.
Il faut poser des questions. Est-ce que l'invité mystère.
On a fait circuler le lien, il y a beaucoup de gens. Hein.
Est-ce que l'invité mystère. Est-ce que vous êtes journaliste ?
Ah, bonne question. Non.
Donc voilà, elle n'a pas vu le film pour la promo.
Une femme. Vous avez joué dans le film ? Ou participé d'une quelconque façon ?
Ah, c'est possible.
Oui.
Oh, mais qui ça peut être ?
Il y a pas mal de monde qui joue.
Est-ce que c'est... qui l'a vu ?
Mais qui a bien pu le voir ?
Non, mais chercher plus... ne pas savoir qui l'a vu, mais qui joue dans le film, un rôle important, quelqu'un qui n'est pas très âgé, pas du tout même.
Oui, c'est pas quelqu'un d'âgé.
Qui a un beau rôle.
Non, mais c'est vrai, parce que comme je pensais à la
qui est superbement bien filmé par vos soins.
Alors, c'est est-ce vrai, que c'est...
C'est... Elle est très belle, disons-le.
Elle est très belle. Oui, en plus, elle ressemble à une actrice très belle.
En plus,
aussi,
elle ne doit pas être mal à l'aise, puisqu'elle est là, qu'elle nous entend, Invité Mystère.
On va l'aider un petit peu.
Invité Mystère, vous êtes très belle et vous jouez très bien.
Mais elles jouent tout très bien, elles sont toutes belles, mes filles, mes femmes, dans ce film. C'est trop, trop dur à savoir. Alors, attendez, qui ça peut être? Pierre Gambin nous souffle.
Posez des questions.
Alors...
c'est quelqu'un qui a souffert dans le film.
Est-ce que vous êtes une femme qui a trompé?
Non.
Non. Est-ce que vous êtes une femme...
Elle a toutes les raisons.
qui a eu un enfant sans être mariée?
Hein?
Oui.
Vous avez dit oui? Ah, sans être mariée. Ouais. Pardon, oui.
Est-ce que c'est Mademoiselle Livia?
Pas du tout.
Non.
Mais qui c'est alors? Mais il n'y en a aucune qui se marie presque.
Voilà, ouais.
Il n'y en a aucune, Lavinie. Elles sont nulles vos questions, il n'y en a aucune qui se marie.
Est-ce que c'est la femme d'Étienne?
Ah, pas mal.
Autrement dit, maman.
Est-ce que c'est ma mère?
Est-ce que c'est Emmeline Cambrin?
Oui,
ah. Bravo.
Bonsoir, Emmeline. Bonsoir. Oh, comme je suis contente. Oh, ben, dis donc. Ah, c'est pas la même voix, là. D'un coup, on installe
la jolie voix. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous jouez dans ce film, mais vous êtes également réalisatrice, quand même, disons-le. Moi, je voulais poser la question, est-ce que vous avez un point commun avec Pascal Tagnat? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes réalisatrice, oui, et actrice à la fois? Comment vous vous connaissez toutes les deux?
On est amies depuis 15 ou 20 ans. On a fait du théâtre ensemble. On était toutes les deux, on va dire, on prenait des cours de théâtre à Ajaccio. Et ensuite, je lui ai toujours dit, lorsque je ferai un film, tu joueras dedans. Et puis, c'est arrivé.
Elle a le rôle de votre maman, alors, dans le film.
Tout à fait. Tout à fait.
Emeline, comment elle vous a parlé de ce scénario, de ce film? Comment ça s'est passé? Vous vous souvenez?
Oui, ben, disons que je me souviens qu'elle a voulu me faire passer le casting, mais on avait parlé avant, elle hésitait pour savoir quel personnage je pourrais incarner. Et au début, c'était la grand-mère, et puis après, ça s'est profilé plutôt avec sa maman. Et voilà, mais après, vu qu'on est amis, qu'on parlait naturellement, ça s'est fait assez facilement.
Oui, vous aviez déjà quelques éléments de cette histoire avant même que le scénario naisse. C'est ça que vous voulez nous dire?
Oui, on s'en est parlé un petit peu. Je me souviens surtout qu'on est rentré dans le vif du sujet en faisant un petit casting. Et puis après, elle a développé le rôle. Mais elle me parlait beaucoup de sa grand-mère, à la base, pour l'idée du film. Et puis après, voilà.
C'est vrai que je voulais les
quatre. Alors, la grand-mère, laquelle?
Alors, la grand-mère, c'est Mémé Lavigny.
Oui.
Il y a un petit passage où elle joue lorsqu'elle est jeune.
Interprétée par Marie Murcia.
Voilà, mais lorsqu'elle est jeune, elle est interprétée par Vanina Van Kovlart. Oui. Et au début, je pensais à Emeline, qui pouvait ressembler à Marie Murcia plus jeune. Enfin, voilà. Et puis ensuite, Emeline, vraiment, au fil des castings, vu effectivement sa grande beauté, son esprit, elle aussi, très années 60-70.
Très libre.
C'est ça. Et en même temps, je voulais une femme qui ait autant de personnalité que de beauté. C'est-à-dire qui ne soit pas juste belle, hein. Qui ait une forte personnalité, qui dépasse un petit peu sa beauté et qui rappelle que les femmes, des fois, parfois même les plus belles, peuvent souffrir.
Elles souffrent beaucoup, d'ailleurs, dans le...
Évidemment, elles peuvent souffrir elles aussi, non, mais souvent, on a un petit peu tendance à l'oublier.
C'est vrai,
on
c'est
pense
vrai.
Que peut-être lorsqu'on est beau, on est épargné par la vie. Mais pas du tout. Et du coup, Emeline a su interpréter le rôle de cette femme déçue, coincée entre une fille, une mère à charge, un mari qui change de voix et qu'elle ne peut pas suivre. Et donc, du coup, son personnage, je trouve qu'elle a très très bien interprété.
Eh ben, on est assez d'accord. Vous qui avez vu le film, c'est difficile, cette question, je ne devrais pas vous la poser, mais en tout cas, le sentiment que vous avez eu en voyant ce film, sans rentrer dans trop d'intimité, mais sans vous dire si vous l'avez aimé ou pas, mais est-ce que... quel regard vous portez sur ce film, La vie ou la pluie, de Lavinie Beaufy, Emeline?
Bon, alors naturellement, et elle le sait, j'ai beaucoup aimé le film. Après, moi, c'est vrai que j'ai suivi un peu l'étape de post-prod, donc j'ai vu les différentes problématiques au montage ou les petits arrangements comme ça qui sont venus après coup. Et c'est vrai que le résultat final m'a vraiment surprise parce qu'il y avait des problématiques, en effet, qui étaient un peu délicates. Et j'ai trouvé que Lavinie avait trouvé des solutions extrêmement bien dans le rythme, dans le côté narratif, tout ça, ça fonctionnait super bien. Et comme quoi, je pense que ça, c'est... Il n'y a que le talent qui peut vraiment débloquer tout le temps une créativité comme ça, que ce soit sur le temps, dans la réalisation, et puis surtout en post-prod. Ça, c'est... Voilà, pour moi, c'est son talent, quoi.
Oui, c'est l'apanage d'une véritable réalisatrice.
Et celui de François Carole, ouais. le monteur du film, qui a passé 5 mois à mes côtés et qui a travaillé, mais alors qui a montré toute sa sensibilité et son travail, parce que franchement, c'était très, très difficile.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Vous travaillez sur quoi, puisqu'on vous tient, on vous a sous la main, Emeline?
En ce moment, de l'écriture, et puis ça me prend beaucoup de temps, donc c'est déjà pas mal. Voilà, un projet d'écriture.
On imagine. Et vous reviendrez vers nous quand ça verra le jour et qu'on pourra voir votre travail. Merci avec beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir été là pour La Vigne Beaufils ce soir. Au revoir.
Merci, au revoir.
Lavinie, mais c'est une histoire incroyable parce que lorsque on a envie d'écrire une fiction et de la porter à l'écran, il faut être entouré de gens qu'on connaît depuis longtemps. Et le rôle de Pierre Gambini, qui est avec nous, a été primordial pour donner du courage, pour aller jusqu'au bout.
Ah oui. Alors, au-delà, enfin, dans ce film et dans le documentaire qu'on a fait avant, pour moi, ma rencontre avec Pierre Gambine, ça a changé ma vie professionnelle. C'est-à-dire, je ne travaillerais plus à l'heure actuelle si je n'avais pas rencontré Pierre et qu'il n'avait pas monté sa boîte de prod. Honnêtement,
pourquoi?
Parce que je ne m'épanouissais pas dans les autres boîtes de prod. C'était très compliqué. Je trouvais que j'étais entourée de gens qui manquaient d'empathie, de douceur. Et puis là, auprès de Pierre, j'ai pu trouver une grande liberté.
Il n'est pas interventionniste comme peuvent l'être certains dans des boîtes de prod, voilà.
Il est très exigeant.
C'est autre chose, voilà.
Mais il y a du respect dans le lien à l'autre. C'est extrêmement rare. On s'en rend compte si vous faites plusieurs boîtes de prod. C'est très rare d'avoir ça. Il donne quelque chose qui est vital. Enfin, je sais pas, qui est vital pour un créateur, pour n'importe quel artiste.
Mais il est capable de dire les choses sans laminer le travail de l'artiste.
Il est dans un respect total, peut-être parce qu'il a, c'est un
parce
grand
qu'il est artiste aussi,
aussi,
ouais,
lui aussi,
me semble-t-il.
Tout à fait. Donc, il a beaucoup de tendresse, de délicatesse. Mais c'est aussi une question d'éducation. Parce qu'à un moment donné, souvent, lorsqu'on a des postes un petit peu, qu'on est producteur, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup avoir du pouvoir et le faire sentir et l'exercer. C'est un petit peu, ça peut se comprendre aussi. Et Pierre, il y a aucune notion comme ça. Il y a beaucoup d'égalité, de respect de l'autre, et c'est en lui, c'est un homme qui va respecter les femmes, les hommes, il n'a pas besoin d'abuser, d'écraser, voilà. Il est dans un rapport très soutenant, et du coup on peut que s'épanouir. Je souhaite à beaucoup de monde de pouvoir travailler chez Omnicube avec Pierre.
Pierre, comment naît-elle cette boîte de production Omnicube?
Elle naît essentiellement de nos expériences respectives. Parce que mine de rien, on a commencé un peu ensemble à créer, notamment moi, la première musique de film que je fais, c'est sur son court-métrage, hein. Il y a bien des années en arrière, hein, donc bien avant même qu'on imagine
c'était
monter une boîte.
C'était en quelle année? C'était 2003.
En 2003. Oui. 2003, ouais. Et après les expériences.
C'était votre première musique de film?
C'était ma première musique de film sur le court-métrage de l'avenir. C'était son premier court-métrage. Donc du coup, voilà, il y a une vieille histoire, une vieille complicité, on va dire. Hein, donc
Vous avez grandi professionnellement.
Professionnellement, on a grandi ensemble, quasiment. Ouais. 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 Et puis elle est là à chaque et même quand je travaille sur d'autres projets, la Vigny est souvent présente. Hein. Je lui fais écouter les musiques. Enfin, c'est quelqu'un de très proche avec lequel je peux échanger et sur lesquels on échange, mais quasiment quotidiennement sur l'artistique, hein, sur la création. Donc il y a un travail qui est là, qui est sous-jacent. Et la boîte de prod au départ, on l'a monté parce qu'on avait un projet, un film écho qui était là et qu'on voyait pas dans d'autres boîtes de prod. On voyait pas l'audace et éventuellement la curiosité ou le courage chez les autres. Et du coup, on s'est dit bon, moi je l'avais fait pour les Cantés, j'avais monté notre boîte de prod pour le groupe. Je dis allons-y. Donc je suis toujours souvent inconscient quand je fais ce genre de choses parce que je me rends pas compte des conséquences, des problématiques qui peuvent avoir derrière.
C'était le constat que les choses ne se faisaient pas assez rapidement ou qu'on ne pouvait pas avoir la main sur tout et que artistiquement c'était gênant. Enfin.
Non, il y a en fait dans un espace de création, il faut qu'il y ait beaucoup de bienveillance et il faut qu'il y ait beaucoup d'air en fait, beaucoup de liberté. Ça c'est primordial. Parce qu'à partir du moment où tout est sur papier et tout est et même quand c'est posé sur papier, rien n'est encore figé. Et que cette liberté, il faut l'avoir. Et même si, jusque dans toutes les différentes étapes du film, il faut garder encore cette liberté au maximum. Et c'est ce qu'elle veut, Lavinie, je la connais bien maintenant. Et c'est ce que moi aussi, je fonctionne comme ça. On a besoin, effectivement, d'aller encore chercher des choses, même quand on a déjà figé certaines choses sur le papier ou à l'image. Donc, on a encore besoin de creuser et de fouiller. Et ça, c'est des choses qui n'est pas rassurant. C'est pas rassurant pour un producteur.
Vous êtes entravé. Vous voulez garder une liberté totale et permanente.
Mais c'est en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que je peux comprendre chez les producteurs aussi, c'est que c'est pas rassurant. C'est des choses qui sont pas rassurantes. Parce que nous, quand on est artiste, on est dans un doute perpétuel pour pouvoir créer. Mmh. Et on se nourrit de ce doute.
Tout à fait.
Mais le producteur, et là maintenant je le sais, puisque j'ai les deux casquettes, le producteur d'un autre côté, quand il prend des engagements avec des partenaires...
Il veut du concret.
Il veut à un moment donné les choses soient posées à certaines dates, il faut que les choses soient... Voilà, parce qu'on a besoin de ne pas perdre la face aux partenaires, on a besoin de... Voilà. Bon, après voilà, c'est gérable, il faut juste être un peu plus tranquille et se dire, bon... Il n'y a rien de grave, on fait un film, voilà, c'est pas. La Terre va pas s'arrêter de tourner.
Il y a des enjeux quand même.
Il y a des enjeux, voilà. Il y a des enjeux, mais il faut savoir faire comprendre aussi les problématiques aux partenaires. Ils sont pas là que pour comprendre les deadlines ou les choses comme ça.
Bon, désormais, Omnicube a un petit peu de bouteille, puisque la boîte produit un long métrage, donc c'est une vraie joie, même si.
C'est une joie.
Il y a dû avoir des moments très difficiles, j'imagine, pour vous.
Ben voilà, c'est-à-dire que là, quand on se lance dans un long métrage ici, sur le territoire, c'est. Effectivement, ce n'est pas une mince affaire. Hein. C'est quelque chose de très lourd et de très costaud. Après, on doit le souligner, il y a Jean-Emmanuel Casalt, l'ancien directeur de France 3, qui, à la lecture du scénario...
Qui a cru tout de suite. Quasiment.
Il y a cru. Ouais. Il y a cru, il a signé ce film. Et ça, c'est pas commun. Voilà.
C'est un pari, c'est vrai.
C'est pas commun. C'est-à-dire que partir sur une chaîne régionale, avec peu de fonds, finalement, pour de la fiction, et partir sur un projet... où on est des artistes, voilà, on est sur un peu des sables mouvants comme ça. Bon, je pense qu'on a réussi à le convaincre aussi, mais voilà. Et le point de départ, il est un peu là aussi, hein. C'est-à-dire qu'après, nous.
Un film de chorale avec beaucoup d'acteurs sur le territoire, un film d'époque. Tout ce qu'il y a de plus compliqué, enfin, quand même.
Ça passerait nulle part, en fait, ailleurs.
Un premier film. Fait par une femme, c'est très rare aussi. Il y en a peu. Hein.
C'est le premier qui est porté par une femme,
Premier long métrage. Il y a eu des gens avant, mais sur des courts-métrages ou des documentaires.
Exactement,
mais en long métrage, je crois que c'est une première.
C'est le premier long métrage, effectivement. Donc, voilà, il y a ce point de départ qui nous permet de faire certaines choses. Après, malgré tout, notre détermination, elle est intacte depuis le début. Nous, on sait que c'est viscéral, on est porté par des choses, on a besoin de raconter des histoires, on a besoin de faire des musiques, on a besoin de faire des vidéos d'art, on a besoin de participer à des expositions, on a besoin d'être un peu de partout parce que c'est vital. Et ça, qu'on ait les moyens ou pas, on le fera. À partir de là, quand on est tranquille, quoi. Parce que je lui ai dit un jour, je dis, même si on n'a pas d'argent, on va le faire, le film. Je sais pas comment, mais on va le faire, voilà. Donc à partir de là, quand on se met ça dans le crâne, je veux dire, tout devient possible. Et quand tes partenaires rentrent, effectivement, c'est plus contraignant, parce qu'il faut faire entrer tout ça un peu dans les cases, il faut être en règle avec la législation, mais
donc, avant ce film La vie ou la pluie, Pierre Gambini et Lavinie Boffy, avant ce film de fiction, il y a eu des films documentaires, il y a eu des courts-métrages.
Oui.
Mais je suis sûre qu'il est là depuis un bon moment, cette histoire, elle est là depuis longtemps. Vous y pensez depuis longtemps, Lavinie ?
Alors, forcément, c'est mon histoire, donc je la porte. Mais l'idée vraiment de la mettre en film est arrivée après Écho. Hein. Oui, elle est arrivée tard.
Après, le premier film Écho est tard.
Ouais. Mais le film Écho, ça remonte déjà quelques années.
2012. Hein. 2012.
Voilà, c'est pas hier.
D'ailleurs,
un extrait.
C'est le choix de l'année.
De l'année, pardon, oui. Allez, on écoute.
Toc Toc, c'est son année.
Choisi évidemment l'année 2012. Eh ben oui, et puisque c'est l'année où professionnellement, avec votre producteur, on y vient, on y est, vous produisez Écho. Et Écho, c'est un film sur la création de Pierre Gambini et notamment Alb et Sistema. On retrouve le début de ce film et vous allez voir, on n'est pas très très éloigné, pourtant on est en 2012, de ce que nous allons découvrir avec La vie ou la pluie. Écoutez.
Tous une chanson préférée, un air qui nous rappelle un instant de vie, chanson d'amour, de victoire ou d'ascenseur, il existe une musique pour chaque événement. Alb est systématique et fait partie de ces albums qui m'ont transformée. Les aubes systématiques annoncent un jour nouveau, une résurrection dans l'univers musical corse. Pierre Gambigne en est l'auteur et le compositeur. Et bien que son œuvre soit très personnelle, l'artiste s'est fait, malgré lui, chroniqueur d'une société en pleine évolution. J'ai souhaité joindre ma voix à la sienne, en images, en sons, en mots, voici mon écho.
Eh ben, il n'a pas transformé que la vie ni Beaufy, cet album. Non, mais c'est vrai, ça avait été quelque chose.
Oui.
Bon, on peut pas en parler, là. Non, vous avez déjà reçu, vous reviendrez.
Non, mais ce qui est intéressant pour venir à la vie, c'est qu'elle s'est intéressée à titre posthume à un autre musicien, réalisateur, enfin, plutôt musicien, c'est Nadal et Loujagne. Oui. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un point commun entre Pierre Gambin et Nadal et Loujagne?
Mais Pierre Gambin faisait déjà partie du projet de ce documentaire qu'on a co-réalisé avec François Carole. Donc c'est vraiment le trio infernal, quoi. François Carole, Pierre Gambin, Lavinie Beaufy. Il y a pas un projet où
François Carole également était là depuis le début.
Il co-réalise ce film sur en hommage à Nathalie Loujagne. C'est notre premier documentaire à François et moi. Nous l'avons fait ensemble. Donc on est tout le temps les uns avec les autres sur chaque projet. Et donc et là, il fait la voix off. Il fait la voix de Nadal.
Mais artistiquement, humainement, créativement parlant, oui. Qu'est-ce qui peut rapprocher Nadal et Loujagne de Pierre Gambin?
C'est une très bonne question. Ben, en fait,
ça veut dire qu'elle ne sait pas. Quand on dit
non, c'est parce que j'avais jamais pensé.
C'est possible.
Et c'est vrai qu'il y a un lien très fort. Ce sont de grands humanistes, en plus d'être des artistes. Ils défendaient des idées politiques et sociales. Et Pierre, dans chaque album, il fait ça un petit peu.
Voilà, Nadal et Loujagne est quelqu'un qui a marqué les esprits. Ouais. Et on va dire deux ou trois générations, mais de manière prégnante, forte. Et aujourd'hui, on récolte les fruits en écoutant les enfants de, on va
bien
dire,
sûr.
Voilà, les disciples, on va dire peut-être
voilà,
même.
C'est ce qui nous différencie, je pense, parce qu'effectivement,
parce que dans votre musique, c'est différent. Voilà.
Moi, moi, je suis pas militant déjà à la base, et ça, c'est la grande différence qu'il peut y avoir avec la personnalité de Nathalie Loujagne. Mon
approche est artistique. Vous êtes de Bastia, vous n'avez pas connu l'école de Nathalie Loujagne comme certains.
C'est une autre génération.
Comme de Pau,
Fait le choix de chanter en langue corse, il y a un choix militant, qu'on le veuille ou non. Me semble-t-il.
Un militant artiste.
Militant au sens pas on y va, etc. Mais
bien sûr,
je choisis, je fais un choix, je l'établis, je le pose.
Moi, je l'explique pas comme ça, mais en tout cas, si vous le percevez comme ça, c'est très bien. Moi, en tout cas, ma démarche est toujours artistique et naturelle, en fait. Voilà. Je pense pas forcément à sauver la langue quand j'écris.
Non, c'est pas ce que je dis. Voilà, le choix de la langue est un choix militant, réfléchi, inconsciemment ou pas. Peut-être pas.
Alors, c'est votre point de vue, mais
voilà. Je ne le partage pas.
Non, je rejoins. Il avait dit dans la précédente émission, là où il était invité.
Que j'aurais dû écouter.
Non, pas du tout. Que c'était une langue d'écriture, que c'était un outil, fait.
Je l'utilise plus comme un instrument de musique, effectivement. Ouais. Parce que là, pour le coup, ce qui me porte, moi, je suis plus porté par la musicalité et la musique que par le texte. Alors que le texte, je m'y plais, j'écris et j'aime ça, c'est pas la question. Mais l'écriture vient toujours dans un second temps. C'est toujours la mélodie, la musique qui va venir dans un premier temps. Voilà.
Lavinie voudrait rajouter quelque chose.
Oui, parce que moi, je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Charles. C'est que pour moi, Pierre Gambin s'inscrit dans une écriture, même si ça arrive en second tes textes, dans une écriture engagée, sociale. Tu parles de
sociale, bien sûr.
Le racisme, enfin, tu as...
Mais engagé ne veut pas forcément dire...
Et dans ce morceau-là, vous parlez de quoi?
C'est joli, ça. Ça fait partie de Albe Sistema, digue. Hein.
C'est la dernière.
Nous sommes toujours en 2012.
Ouais. C'est une ode à l'amour. C'est une ode à l'amour. Et Lavinia, le personnage principal, qui fait référence à la mythologie romaine, elle est peut-être représentative en fait de cet amour. Après, moi, je suis parti de cette chanson de l'histoire qu'on a pu avoir et d'une histoire d'amitié qui est très forte aussi, au-delà de l'amour, parce que l'amitié, ça peut être de l'amour aussi. Et elle est restée, cette chanson. Donc elle est là pour, j'espère, pour d'autres. En tout cas, on m'a appelé plusieurs fois pour me dire
c'est une chanson
qu'on met pour notre mariage. On se retrouve dedans. Enfin voilà. Donc,
tu m'avais dit une chose aussi à l'époque, c'est quand tu l'avais écrite, tu avais envie de donner ce prénom qui est un petit peu rare encore en Corse, qui existe toujours, des petites filles et des personnes.
Il y a un passage très drôle d'ailleurs dans le film sur le prénom. Je pense à Marie
dans la vie de la pluie. Tout à fait. Oui. Mais il se disait que c'est un prénom. Du coup, c'est pas les mêmes ambiances, mais pour lui, ça restait un petit peu. Ça pouvait pas être forcément Caroline ou Carole ou Sandrine. du coup, ça devenait un petit peu plus mythologique, et parce qu'il y en a
plus très peu.
Oui, voilà, ça permettait un petit peu de faire, de pas préciser comme ça.
Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que ça scelle la relation artistique qui se poursuit aujourd'hui.
La relation humaine aussi. Parce que au-delà, je dirais, de notre collaboration professionnelle, il y a une grande histoire d'amitié, vraiment.
Ah oui.
Et alors, je sais que c'est ici en Corse, effectivement, si on parle de regard social, c'est quelque chose qui peut ne pas être compris par tout le monde, une histoire d'amitié entre un homme et une femme. Et c'est le cas, voilà. C'est le cas, parce que je sais que demain, si je suis seul, je sais que je ne serai jamais, parce que je sais qu'elle est là, et elle, c'est pareil. Et j'ai d'autres amis aussi, j'ai le même rapport. Hein, mais voilà, mais donc il y a une histoire d'amitié qui fait qu'on se soutient, au-delà même, je dirais, des fois, de préoccupations artistiques et professionnelles.
C'est ça. Moi, Pierre, c'est le frère que je n'ai pas eu, quoi. C'est mon frère, c'est comme ma famille.
Ça dépend, des fois je suis le papa, des fois la maman.
Ouais, c'est vrai, des fois je fais ça.
Des fois, voilà, cette chanson, si vous avez envie de l'entendre sans qu'on parle dessus, oui. Vous la retrouvez sur l'album de Pierre Gambini, Albe Sistema Adige. Il y a une chose qui nous a frappé dans ce film, qui nous a beaucoup touché à Jean-Charles et à moi, et nous sommes sûrs que d'autres personnes vont
sincèrement,
être
touchées. Sincèrement, allez-y, enfin, c'est pas touchées. Mais allez-y, parce que vous allez vraiment sortir... les fesses par terre.
Carrément.
Ce soir... pas dire autre chose. Voilà, je voulais dire autre chose, mais j'ai eu peur d'être vulgaire.
À découvrir donc ce soir à 19h30 au cinéma Le Régent à Bastia. Et puis
c'est 19h, hein, il me semble. Excusez-moi, Marie.
Non, vous avez raison de le dire. C'est 19h et on va pas louper la première demi-heure. Ce serait dommage. Et puis le 15 mars.
Ça passe rien la première demi-heure.
Au cinéma L'Ellipse à Ajaccio, le 6 avril à Cargès, le 25 mars au théâtre de Propriano, et puis sur France 3 Corse UST là, le 16 mars pour pas se tromper. Évidemment, donc 19h ce soir, hein, 19h. Au cinéma Le Régent, je vous prie de m'excuser. Donc nous disions avec Jean-Charles que, outre la beauté des images, de la réalisation, du montage qui est hyper pointu, le jeu des acteurs et puis votre histoire qui nous touche, c'est que ça nous renvoie notre propre histoire. Et alors là, avec ce petit extrait que j'ai choisi, ça a beaucoup fait rire Jean-Charles que je choisisisse cet extrait. Il me dit, ah oui, vraiment, c'est le moment fort.
Ah, c'est la clé du film.
Donc ça n'est absolument pas la clé du film, absolument pas.
Non.
Mais il m'a semblé intéressant de choisir...
Mais c'est un bon choix, c'est judicieux.
Cet extrait, parce que vous allez comprendre que ce siècle balayé de l'histoire de ces gens en Corse nous parle à tous, notamment avec ce petit moment qui est un petit moment de poésie.
La nuit, il faut dormir... L'après-midi, il faut faire la sieste car il fait trop chaud. Au final, il n'est jamais l'heure d'aller dehors. Et en même temps, pourquoi faire? Dans mon village, il n'y a rien à faire. Rien n'a changé depuis 100 ans. Pas de télévision, pas de commerce, pas d'enfants avec qui jouer, que des chiens et des vieux sur la place.
Hop. Tu as brûlé la fontaine ce matin ou hier? C'est vrai que tu as brûlé la fontaine?
Non.
Oui, pardon. Le petit vieux, il t'a vu. Ah, moi, j'ai un témoin. Hein. Mais je dis à personne. Tu me dis la vérité. Dis-moi à l'oreille que c'est toi.
Mais c'est pas moi.
Alors, qui c'est?
Je sais pas, mais c'est pas moi.
Bon, alors, je te laisse tranquille, allez.
Mais on a tous vécu ça.
On peut saluer Mathieu.
Attends, Mathieu Santouche.
Santouche de Courge, un grand acteur, voilà, oui.
Qui a merveilleusement interprété.
Qu'on peut rencontrer en ce moment sur la place Saint-Nicolas l'hiver, voilà.
Ah oui, parce l'hiver à Bastia. Et l'été à Courge. Et il a été merveilleux.
Ça fait quoi à beaucoup de monde, hein, cette histoire de Tiabru la fontaine, va m'acheter 2 kilos de mousse ou beige, tout, voilà, c'est toujours ces histoires-là. Hein.
On l'a tous vécu, ça, enfant, évidemment. On a tous vécu ce rythme des cloches dans un village où il n'y a personne, pas grand monde, un chien, pas d'enfant. L'ennui, on a tous vécu ça, la chaleur. Non, tu ne sors pas, il fait trop chaud. Non, tu ne vas pas te baigner, tu viens de manger. Donc, je fais rien, quoi.
Voilà.
Et ces heures d'attente ou d'ennui permettent à cet enfant, à la Vigny, de développer son imagination et son imaginaire.
C'est ça, tout à fait. C'est une période hors du temps, surtout peut-être à Courche, où vraiment il n'y a même pas un café, il n'y avait aucun commerce, pas de télé. Et c'est une période hors du temps. Alors déjà, de vivre chez ses grands-parents, les 2 mois d'été, c'est déjà un rythme très différent. Nos personnes âgées avaient un rythme comme ça, très, très, très différent, la sieste, et puis ils étaient sûrement très effrayés de nous garder. Et donc du coup, on était un petit peu obligés de rester enfermés.
Nous effrayés d'être là. au milieu.
Nous, effrayés d'être là au milieu, de ne plus avoir d'eau chaude, courante, de se laver sur la terrasse, dans des bassines. Et puis, du coup, de ce silence comme ça, qu'est la nuit, avec ces petites cloches à l'aube, ces ânes qui braisent. Quand on arrive de la ville,
c'est peut-être ça qui nous donne un rapport au temps différent de d'autres, par rapport à d'autres. Voilà.
Et c'est magnifique.
C'est là qu'on a créé notre rapport au temps, peut-être qui est différent de quelqu'un du Nord ou d'ailleurs. Voilà.
Et comme nous sommes flagorneurs ce soir, nous pouvons saluer quand même le travail qui a été fait sur le son. qui est vraiment génial aussi. Vous parliez du bruit des cloches et de la musique, bien sûr, Pierre.
De la musique.
Je lui avais déjà dit quand je l'avais reçu il y a quelque temps.
Oui, Pierre Gambin a réussi.
Mais sans la musique, c'est pas le même film aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Là, on voit la complicité. On voit que ça matche bien. Enfin, c'est parfait, c'est harmonieux.
Voilà, Pierre Gambin, donc je savais que ce serait lui qui ferait la musique. C'était pas facile parce qu'il avait déjà vu tout, les premières pages du scénario, tous les rushs. Donc il fallait qu'il trouve vraiment l'inspiration. Et puis il aime bien aller dans des endroits un petit peu nouveaux pour lui aussi, pour trouver aussi son intérêt. Et là, il a fait une musique. Je vous lis une musique très tendre, très émotionnelle, très sensible.
Qui prenne pas le dessus aussi, hein, voilà, mais qui soutient, qui pousse.
Oui, mais même qu'on ose aller là-dedans, parce que c'est toujours un petit peu, ça peut paraître assez ridicule.
Ah, mais il y a une scène terrible.
Sensible, ça peut être trop, tu vois, un petit peu mièvre. Et donc, il a réussi à faire vraiment une musique très émotionnelle. Et avec François Carole, il nous a débloqué tout le début. Le début, l'extrait que vous avez choisi, c'est la musique de Pierre avec ce piano, cette tendresse. Il nous a trouvé des clés de montage et de solutions.
Mais il fallait de l'enfance et du drame à la fois. Donc c'était hyper compliqué, Pierre, j'imagine, de trouver cet équilibre-là.
Alors j'adore quand on parle de moi quand je suis présent. Ça, c'est quelque chose, un exercice que j'aimerais qu'on reproduise souvent. Mais effectivement.
On le fera à ta mort aussi, t'inquiète.
Super.
Tu seras là avec nous.
Ben, j'espère. En fait, voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est que sur ce film, la grande complexité pour moi que j'ai eue en tant que compositeur, c'est que je connais le projet depuis 4 ans. Je suis producteur dessus, je connais toutes les versions des différents scénarios, j'ai tout lu, et il y en a eu une vingaine de scénarios différents. Enfin voilà, donc il y a eu un gros travail d'écriture. Donc quand j'arrive et que je dois composer, et la spontanéité que je peux avoir sur d'autres projets, là, elle s'efface et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il a fallu creuser un peu, il a fallu vraiment retrouver, aller vers d'autres pistes émotionnelles pour moi, pour aller chercher aussi un peu des choses qui étaient enfouies chez moi aussi. Hein. J'avais dit à Lavigny très vite, j'ai dit le piano on va éviter parce que là on va tomber dans, ça va être le téléfilm sur TF1, c'est bon.
Ça veut dire j'y pense en fait.
Mais voilà. Ouais. Et puis finalement, elle me prend une musique qu'elle avait sur son disque dur, elle le cale, c'est un piano, et ça marche. Et j'ai dit, mais en fait, le piano, en fait, c'est ce qui va marcher, quoi. Et le piano, donc, j'ai commencé à composer vraiment un thème au piano, le tout premier qu'on entend. Et je l'imaginais comme si c'était un enfant qui le jouait d'une manière très simple, que ce soit pas trop compliqué, trop complexe, très minimaliste, qui fasse penser à des gouttes de pluie aussi, quelque part, dans le son, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça a collé de suite. Donc du coup, on s'est dit, on va garder ça parce que c'est ce qui marche, quoi. Voilà, tout simplement.
Et puis il y a la scène que vous aviez choisie, Marie, lorsque vous aviez reçu Pierre, parce que j'ai écouté l'émission, en fait.
Que vous aviez choisi.
Ce mix entre quand votre papa apprend avec les bergers de Courche comment appeler les animaux, les chiens, etc. Et qu'il y a cette musique qui arrive, qui soutient, qui se mixe bien avec
les onomatopées.
C'est là où c'est la réussite totale. Franchement. Non, ceux qui vont voir le film, soyez très attentifs parce que là, c'est un moment particulier. Pour moi, moi, ça m'a vraiment ému. Voilà.
Ah, merci. Ce passage-là, encore, je le précise parce que c'est le fruit du travail de 3 personnes pour le coup, de François au montage, Lavigny et moi, quoi.
On est scotché. Enfin, moi, j'étais scotché. Je regardais.
Ce passage-là particulièrement, cette trouvaille, c'est vraiment ça.
Il m'a dit lors de l'émission, il me dit, c'est pas moi. C'est bien ou c'est ça. C'est pas mon idée. C'est celle de François Carole.
C'est ma musique en même temps, mais c'est surtout.
Je me souviens que vous aviez dit ça. Alors, il y a évidemment aussi une chose à laquelle on ne peut pas penser, c'est au féminisme, parce que c'est quand même une belle ode au féminisme et à ces femmes qui ont pris de la liberté toutes seules. Moi, on pense à Tata Lavigny et qui vraiment a tout fait pour élever sa petite fille, qui en réalité n'est pas vraiment
sa petite nièce,
qui n'est pas en réalité sa petite fille, par la culture, par les livres, pour qu'elle puisse s'en sortir. Et ça, ça nous fait plaisir, ben oui, de voir ça. Ça nous a touchés, Jean-Charles, également.
Alors oui, en effet. Alors déjà, le film, en regardant toutes ces femmes mises en patchwork, c'est pas très joli à dire, mais on les met
en chorale,
voilà, autour comme une fleur autour de nous, mais déjà ça raconte un petit peu toutes les difficultés auxquelles les femmes en général peuvent être confrontées, et donc bien sûr que je suis féministe, on ne pourrait pas dire l'inverse, ça ne serait pas possible, mais c'est surtout un film humaniste, et c'est vrai qu'il y a ce personnage de Mémé Lavigny qui s'en sort, mais parce qu'elle est autonome, parce qu'elle a pu faire des études et qu'elle est directrice d'école.
Qui est pourtant décriée, hein, parce que dans le film on l'a traitée de...
Alors elle est décriée, mais c'est la seule qui ne se mariera pas,
tout à fait,
et ça sera sa chance. Et c'est pas tellement heureux comme fin. Donc il y a quand même une grande difficulté. Enfin, c'est la seule qui s'en sort bien, qui peut faire du bien aux autres aussi, du coup, parce qu'elle a de l'argent, elle peut adopter, elle peut
léguer
une maison, éduquer comme il se doit. Mais elle n'a pas d'amour. Alors c'est quand même un petit peu sa question.
Ça ferait bien un film, la deuxième partie, hein, la vie de Tata Lavigny, enfin, derrière ce qui se passe. Ouais.
Mais elle a quand même l'amour de l'enfant qu'elle adopte.
Ah oui,
elle a l'amour de sa descendance.
Oui. Elle a tout. Elle a tout. Elle réussit justement, en n'étant pas mariée, à avoir une famille. Mmh. Elle a réussi à adopter à l'âge de 50 ans. Donc elle adopte une femme.
Elle transmet sa culture, son savoir. Il y a une scène, pardon, alors là aussi, pour ceux qui vont voir le film.
On parle de son prénom dans tous les médias, hein, en ce moment.
On pense à elle parce qu'elle est encore là, elle est avec nous. Il y a une chaise vide, là, elle est assise. Elle ne lâche pas.
Et la scène du lit, lorsque vous, petite, vous êtes avec votre grand-mère, cette scène sur le lit, on ne va rien dire, hein, mais chapeau, niveau réalisation, chapeau. Hein,
voilà. Ah, c'est tellement beau.
Oui,
c'est trop beau.
Dommage qu'on ne puisse pas le dire parce que.
Mais il faut y aller à 19h ce soir au cinéma Le Régent. Allez voir absolument ce film, La vie ou la pluie.
Mais c'est beau parce que vous trouvez ça beau, parce que
c'est sincère en plus.
Eu vous aussi l'amour des vôtres, et c'est vraiment tout ce à quoi appelle ce film, c'est de penser aux siens, à ceux que l'on a aimés, qui nous veillent, qui sont là aussi. S'il y a quelque chose qui reste de beau encore, c'est quand même cette transmission de vivre avec plusieurs générations.
Tout à fait. Oui.
Et puis il y a autre chose qui est important, c'est vrai, c'est l'espoir. C'est que malgré les blessures, eh ben il faut vivre, et comment vivre le mieux possible, et comment trouver sa voie, par quel biais. Et il y a un petit extrait que Jean-Charles a récupéré. Bientôt on passe tout le film.
Non,
prendre l'heure de Michael après. Non, c'est pas vrai. C'est un tout petit extrait. Voilà.
C'est pour poser une question derrière. Ouais. Voilà. Allez, on écoute un extrait du film.
D'autres ?
Moi ? Oui ? Est-ce que je pourrais jouer un morceau de guitare, s'il vous plaît ?
En accompagnement du théâtre, oui, bien sûr, oui, pourquoi pas. On peut avoir de la musique, parce que ce qui est intéressant au théâtre, c'est qu'il n'y a pas seulement jouer, donc être comédien, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour. Les décors, la lumière, le son, les costumes, même l'écriture. Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui aimeraient écrire ? Personne ?
Moi, ça m'intéresse. Mais je peux écrire n'importe quel style de pièce.
Tu peux écrire n'importe quel style de texte. Tu peux écrire des dialogues, bien sûr, mais tu peux écrire aussi des textes qui ne sont pas dialogués.
D'accord. Bah, vous pouvez écrire mon nom, alors.
J'écris ton nom.
Alors justement, cet extrait, on entend...
Mais moi, c'est très émouvant.
Francis Alicki qui dit... Donc c'est
vous, et s'adresse à des jeunes gens, dont Lavigny adolescente.
Et lui, donc le prof de théâtre, dit « Vous pouvez aussi écrire des textes qui ne sont pas dialogués. » Et en fait, c'est le film. Parce qu'il y a la voix off, enfin la voix narrative, et également tout le temps, de temps à autre, des dialogues. Donc il y a ça s'entremêle aussi à un moment donné. Or je sais pas, moi, ce choix un petit peu aussi original, hein, au début il y a beaucoup de narration, puis après il y a un peu plus de dialogue.
Et voilà. Puis cette poésie en prose tout au long du film.
Oui, alors je vais commencer par déjà Francis Alicki dans son propre rôle
bien sûr,
qui est arrivé dans mon école, qui est l'école du film, qui est Saint-Paul à Ajaccio, et qui m'a tendu une main merveilleuse, qui était celle du théâtre, puisque j'étais réellement en échec scolaire, et donc sa rencontre dans la vraie vie et dans le film,
a
changé la vie avec l'appel de la culture, le théâtre, et ce qui donne aussi de l'espoir. Moi, c'était le théâtre, mais ça peut être pour n'importe qui. Il peut avoir 50 mains différentes qui peuvent être tendues. C'est d'oser, de se dépasser, d'aller là où on a très très peur d'aller, parce que je vous assure.
Parce qu'elle a peur un petit de monter sur scène.
De monter sur scène dans une école où tout le monde se juge, et c'est encore le cas maintenant. C'était pas facile. Et voilà. Et donc voilà, ça peut être une solution pour l'espoir. Et ensuite, on a fait une boucle avec le début, mais j'ai oublié.
Non, on a parlé de la forme du film.
Oui, de la forme narrative.
Les dialogues, la forme narrative et la poésie dans cette prose libre qu'on entend aussi tout le temps,
tout
ne serait-ce qu'avec le titre du film.
Alors, juste une question. Vous avez démarré par l'écriture et après
et
vous avez...
Et répondre ou pas à cette question?
Pardonnez-moi, moi, j'étais déjà...
Il est 56.
Répondez. Non,
oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais déjà, Jean-Charles l'a bien dit, vous l'avez très bien dit.
Je l'avais dit, enfin Marie, si tu m'écoutais un peu.
C'est un mélange vraiment entre le documentaire, la fiction, la poésie. Il y a beaucoup de liberté, malgré le fait que ce soit un téléfilm, que ça s'adresse, que c'est un film fait pour la télévision, que ça s'adresse au plus grand nombre. Il y a une grande liberté, beaucoup de poésie à l'intérieur. Et aussi, voilà, des formes hybrides un petit peu. Oui. On peut passer avec un début, comme vous le soulignez, avec une forme très narrative, comme dans le documentaire. Et puis le film peu à peu s'ouvre vers plus de fiction vers la fin. Mais on comprend qu'en fait, en fin de compte, ce qu'elle veut écrire, c'est déjà peut-être son histoire. Et toute cette poésie avec le titre La vie ou la pluie, qui sont un petit peu...
La pluie, je pense que ce sont les larmes. Hein,
c'est ça, ce sont les larmes qui ne cessent d'accompagner les vies de femmes. Mais bon, ça faisait un peu punchline. Mais bon. Et donc, du coup, c'est ça. C'est vous. Non, mais c'est vrai, ça fait rire des fois.
C'est comme la chorale et la corolle.
Oui.
Mais quand on est poète. La vie de mon fils est ainsi. On ne peut pas se changer. Mon Dieu. Voilà. Et si vous avez une dernière.
J'ai plus rien à dire.
Alors, tant mieux, parce que c'est tard.
D'accord.
Merci.
On aurait pu en parler encore pendant des heures. Hein.
Franchement, oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci à vous. Merci à FM depuis le début. Vous nous avez tendu une main d'or et je vous en remercie infiniment.
Merci Pierre Gambini.
Merci à vous. Merci
d'avoir
beaucoup.
Été avec nous. Merci.
Il y aura une suite. Rapidement, j'ai une question. Il y aura une suite ou d'autres projets.
Mais il a raison, Jean-Charles. On a 3 heures de rush. On aurait voulu en faire un second. Il y a la suite.
Ah, voilà.
Allez,
rendez-vous, oui, bien sûr. Rendez-vous ce soir donc à 19h au cinéma de Régent à Bastia et puis on le verra aussi sur France 3 Corse VST. À l'Ellipse à Ajaccio, à Cargès et à Propriano.